Vous écoutez Europe 1, il est 22h. C'est l'heure du journal, Isabelle Millet.
Nous venons d'avoir l'information d'un nouveau cas confirmé pour le coronavirus à Paris.
Deux Français contaminés par le coronavirus venus de Chine, deux patients, l'un à Paris, l'autre à Bordeaux. Il est probable que nous ayons d'autres cas, dit ce soir la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, qui donne les consignes à appliquer en cas de suspicion. Prendre sa température et appeler le SAMU. Pas question pour l'instant de fermer les aéroports. Dossier complet dès le début de ce journal. Monique Olivier pense que le tueur en série Michel Fourniret, son ex-mari, a bien tué Estelle Mouzin. La disparition de la petite fille en 2003 a donné lieu à toutes les spéculations. Cette fois, la piste est sérieuse, d'après son avocat.
Aujourd'hui, je pense qu'on a progressé sur la piste Fourniret plus en 6 heures qu'en 10 ans. Il n'y avait pas de doute, selon elle, que Michel Fourniret était l'auteur de la disparition d'Estelle Mouzin.
L'actualité, c'est aussi la disparition depuis lundi de trois Français et d'un Irakien à Bagdad, membre de l'ONG Chrétien d'Orient. Au sommaire également, la réforme des retraites en Conseil des ministres. Première étape et des manifestants qui ne baissent pas les bras, notamment les avocats. Nous les entendrons. Donald Trump dans la rue contre l'avortement. Un président dans une manif, c'est une première. En foot, on suit ce soir en Ligue 1 la rencontre entre Nice et Rennes, match avancé de Ligue 1. Frédéric Elion, c'est Nice pour l'instant qui mène au score.
Effectivement Isabelle, 60 minutes de jeu à l'Allianz Riviera, 1-0 pour Nice, le but de Casper Dolberg à la 47e.
Merci beaucoup Frédéric Elion, que l'on retrouvera évidemment pour faire un nouveau point dans le courant de ce journal. Ainsi à la dominance de gris demain et un thermomètre qui affichera des températures de saison. Ne manquez pas les prévisions d'Anissa Haddadi à la fin de ce journal. Et puis comme chaque soir, vous avez rendez-vous avec l'interview d'Emmanuel Duteil qui reçoit ce soir le président du Futuroscope, Rodolphe Boin, pour évoquer la future attraction du parc Objectif Mars, une montagne russe basé sur le thème de l'espace.
Europe 1.
Et c'était la nouvelle que l'on redoutait depuis l'apparition du coronavirus en Chine. Les premiers cas sur le territoire français et sans doute même les premiers cas pour l'instant en Europe. Deux patients contaminés, l'un à Bordeaux, l'autre à Paris, annonce ce soir de la ministre de la Santé Agnès Buzyn.
Le cas qui a été hospitalisé à Bordeaux est bien un cas confirmé. Positif pour le coronavirus. Le patient est âgé de 48 ans. Il revient de Chine où il a fait un voyage de quelques jours. Il est passé par la ville de Wuhan. Donc il est hospitalisé depuis hier à Bordeaux. Il est en chambre isolée de façon à ce qu'il n'ait pas de contact ultérieur. Il va bien. Nous venons d'avoir l'information supplémentaire d'un nouveau cas confirmé à Paris. Il est hospitalisé aussi en isolement. Donc nous sommes en train de rentrer en contact avec les personnes qu'ils ont croisées. Nous allons donc les contacter pour leur donner les consignes.
La ministre de la Santé Agnès Buzyn qui confirme donc ces deux cas français de coronavirus. Les autorités ont décidé de communiquer immédiatement et prennent les choses très au sérieux. Victor Dolande, quelles sont les consignes à respecter en cas de doute, puisqu'on imagine qu'il y a des personnes qui sont un peu inquiètes en nous écoutant ce soir?
Oui, alors le maître mot, Isabelle, est la vigilance, mais pas de panique non plus. La ministre de la Santé, Agnès Buzyn, a insisté sur les consignes pour toutes les personnes qui ont récemment voyagé en Chine ou qui ont été en contact avec des personnes qui ont voyagé dans ce pays. Il faut prendre sa température régulièrement. Si vous toussez en plus et que vous avez un doute, ne surtout pas se rendre aux urgences ni appeler un médecin. Il faut contacter le centre 15 et c'est le 15 qui viendra directement chercher les personnes pour les hospitaliser, les mettre à l'isolement le temps de leur faire passer des tests. Par ailleurs, la ministre de la Santé a précisé qu'elle donnerait de nouvelles informations tous les jours lors d'une conférence de presse pour éviter que des rumeurs enflent sur les réseaux sociaux et aussi pour rassurer la population.
Merci Victor Delande pour ces précisions. Pas question pour l'instant de fermer les frontières, sachant que de nombreux voyageurs en provenance de Chine transitent par d'autres pays avant de rentrer en France. La Chine, elle, qui emploie les grands moyens pour tenter d'enrayer l'épidémie, ce sont désormais une dizaine de villes qui sont placées en quarantaine. Alors que les Chinois s'apprêtent à fêter le nouvel an, toutes les festivités ont été annulées à Pékin. Certains lieux touristiques sont fermés comme la Cité Interdite et à Wuhan, le berceau de l'épidémie, un nouvel hôpital est en construction en urgence. Il devrait être terminé d'ici 10 jours seulement. C'est peut-être la fin d'une très longue et très douloureuse attente pour les parents de la petite Estelle Mouzin, disparue en 2003 en Seine-et-Marne. L'ex-épouse de Michel Fourniret, Monique Olivier, a affirmé aujourd'hui devant le juge d'instruction qu'il entendait que le tueur en série a bien tué la petite fille. Elle avait déjà mis à mal en novembre l'alibi de Fourniret. Cette fois, elle va encore plus loin. Elle évoque de possibles repérages quelques jours avant sa disparition. Écoutez la réaction de son avocat, maître Richard Delgène.
À l'issue de plus de 6 heures d'interrogatoire, Monique Olivier a clairement signifié que, selon elle, Michel Fourniret était l'auteur de la disparition d'Estelle Mouzin. Alors, sans avoir la certitude d'un aveu de Michel Fourniret, elle a indiqué, dans le cadre d'une déclaration spontanée, que, tant sur l'alibi, Michel Fourniret lui a bien demandé d'appeler pour fournir un alibi le jour de la disparition, que sur le profil de la victime, que enfin sur le fait que Michel Fourniret, selon elle, a procédé à des repérages dans les semaines ou jours qui précèdent. Elle a bien confirmé que, selon elle, Michel Fourniret était bien l'auteur de la disparition d'Estelle Mouzin. Alors évidemment, il y a des investigations complémentaires à mener, mais là, aujourd'hui, je pense qu'on a progressé sur la piste Fourniret plus en 6 heures qu'en 10 ans. Pour elle, dès lors qu'il lui demandait cet alibi-là et qu'il avait fait une remarque en disant « j'ai repéré un beau petit sujet », il n'y avait pas de doute, selon elle, que Michel Fourniret était donc manifeste l'auteur de la disparition d'Estelle Mouzin.
L'avocat de Monique Olivier, maître Richard Delgen, joint pour Europe 1 ce soir par Alain Accot. L'association française SOS Chrétiens d'Orient a annoncé ce soir la disparition de 4 de ses collaborateurs en Irak. Parmi eux figurent 3 Français et un Irakien. Théo Manval, que sait-on ce soir ?
Eh bien, ces 4 salariés, dont 3 Français, ont disparu depuis lundi en fin d'après-midi, alors qu'ils quittaient leur hôtel près de l'ambassade de France à Bagdad pour se rendre à un rendez-vous de travail. La direction de l'ONG donne très peu de détails sur leur identité ce soir pour ne pas compromettre leur sécurité. Il s'agit en tout cas de personnel chevronné, formé au risque, nous dit-on, et qui était à Bagdad pour renouveler leur visa, enregistrer l'association auprès des autorités irakiennes, explique Benjamin Blanchard, directeur général de SOS Chrétiens d'Orient.
C'est des personnels expérimentés et qui travaillent depuis plusieurs années avec nous. On essayait de les contacter et donc le mardi, ils étaient très occupés, donc ce n'était pas forcément inquiétant. Et dès le mercredi matin, pas de nouvelles, donc on a alerté les autorités. Nous n'avons reçu aucun signal d'alerte préalable, aucune menace.
Pas non plus de demande de rançon ni de revendication ce soir. Le Quai d'Orsay que nous avons pu joindre assure être en contact étroit avec l'ONG SOS Chrétiens d'Orient et mobiliser tous les services de l'État sur place pour tenter de retrouver ces 3 ressortissants et leurs collègues irakiens.
Les précisions pour Europe 1 de Théo Manval. Au Québec, vous savez que 5 Français étaient portés disparus après un accident de motoneige. Eh bien, on a appris ce soir qu'un premier corps avait été retrouvé à plus de 2 km du lieu où s'est produit l'accident.
Europe 1, le journal de la nuit, Isabelle Millet.
Il est 22h07, merci d'écouter Europe 1, c'est la suite de votre journal. Et ce vendredi a été marqué par de nouvelles manifestations contre la réforme des retraites qui était présentée ce matin au Conseil des ministres. Le ministère de l'Intérieur a comptabilisé 249 000 personnes dans toute la France. Le cabinet indépendant Occurrence en a compté 39 000 dans la capitale. Et parmi les professions toujours très remontées contre cette réforme, les avocats qui refusent ce nouveau système qui implique pour eux une augmentation de leur cotisation. Jean-Baptiste Dubrulle est le bâtonnier de Lille. Il était dans la manifestation aujourd'hui.
Au-delà du régime autonome, c'est notre indépendance qui est en danger. Dans une démocratie, l'avocat doit être indépendant. Il ne répond qu'aux intérêts de son client. Et notre indépendance, on se la retrouve aussi dans ce régime autonome. Et c'est ça qu'on vient défendre aujourd'hui. La colère, il y en a parce que les avocats sont les infirmières d'un service public comme l'hôpital. On tient la perfusion d'une justice qui est moribonde. Et là, ça commence à bien faire. Donc aujourd'hui, on met à mal les plus petits cabinets avec cette réforme des retraites. Il y a beaucoup de motifs d'insatisfaction et de colère, et elles s'expriment aujourd'hui. Et puis aujourd'hui, on partage avec les gens qui sont là. On m'a demandé tout à l'heure s'il y avait beaucoup de différences aujourd'hui entre les revendications. Non, je crois pas. Je crois qu'on partage tous une même colère et le même sentiment de ne pas être entendu. Et ça, c'est assez révélateur.
Le bâtonnier de Lille, au micro Europe 1 de Lionel Gougelot. Les syndicats appellent déjà à une nouvelle journée de mobilisation. Ce sera mercredi prochain, mais sans la CFE-CGC qui a décidé de suspendre ses actions. On en sait plus ce soir sur les 7 suspects arrêtés dans le Finistère. Comme nous vous le révélions sur Europe 1 dès lundi, ils préparaient bien un ou plusieurs attentats. Et Guillaume Bier, vous avez des informations sur les cibles qu'ils comptaient viser.
Leur projet terroriste, c'était de mener une attaque multiple, commettre plusieurs attentats, notamment à Brest, contre au moins 2 cibles, selon nos informations. D'un côté, l'arsenal de Brest, la base navale militaire, et de l'autre, les festivités du Nouvel An chinois, dont le défilé doit avoir lieu demain dans les rues de la ville. Leur passage à l'acte était donc possiblement imminent, mais les enquêteurs restent prudents sur ce point, car ni armes ni explosifs n'ont été retrouvés en perquisition, mais les suspects auraient cherché à s'en procurer. D'ailleurs, ils avaient bien téléchargé sur Internet des modes d'emploi pour confectionner de la matière explosive ou du poison. Les policiers ont aussi retrouvé des documents de propagande islamiste et surtout des allégeances au nouveau chef du groupe État islamique, indice qui les conforte dans l'hypothèse d'une action très prochaine. 7 hommes sont donc mis en cause par la justice antiterroriste. Le plus jeune est un ado de 16 ans, le plus âgé à 38 ans. Et le principal suspect est un réfugié né en Syrie, arrivé en France en 2015, soupçonné d'avoir appartenu à Daesh. Il était fiché S, étroitement surveillé par les services de renseignement. C'est lui qui aurait fédéré une demi-douzaine de personnes radicalisées autour de lui.
Les précisions de Guillaume Biet du service police-justice d'Europe 1. 500 kilos de cocaïne découverts aujourd'hui au marché de Rungis dans un chargement de bananes en provenance de Colombie. Une première maintenant dans l'histoire américaine. Donald Trump a participé ce soir à une marche anti-avortement à Washington. Xavier Yvon, vous êtes le correspondant d'Europe 1. Il est le premier président américain en exercice à prendre part à un tel rassemblement.
Exactement. D'ailleurs, Donald Trump a commencé son discours en soulignant cette première. « C'est un grand honneur », a dit le président américain, acclamé par des dizaines de milliers de militants anti-avortement. Et Donald Trump a repris exactement leur terminologie et leur slogan.
« Unborn children have never had a stronger defender in the White House. »
Les bébés à naître n'ont jamais eu un meilleur défenseur que moi à la Maison Blanche, a-t-il dit. Il a cité la Bible, il a accusé les démocrates d'être radicaux sur la question, de vouloir, je le cite, « tuer les bébés même juste avant la naissance », ce qui est faux évidemment. Bref, Donald Trump a fait le job et il a été chaleureusement applaudi, mission accomplie. S'il a fait cette apparition inédite, ce n'est pas par conviction, le milliardaire a longtemps été favorable à l'avortement, non, c'est en fait par stratégie électorale. Ce que le président américain est venu chercher cet après-midi sur la grande pelouse du Mall de Washington, c'est le soutien des chrétiens évangéliques pour lesquels l'avortement est un sujet majeur. En 2016, Donald Trump a été élu avec 80% du vote évangélique. Leur soutien est donc indispensable pour sa réélection en novembre, mais il a perdu des points dans cet électorat clé ces derniers mois, notamment parce qu'un grand magazine chrétien l'a accusé d'être, je cite, immoral.
Xavier Yvon, correspondant d'Europe 1 aux États-Unis. Signe que le Brexit approche, l'Union européenne a nommé aujourd'hui un ambassadeur auprès du Royaume-Uni. Le Portugais João Vale de Almeida prendra ses fonctions le 1er février, c'est-à-dire au lendemain de la sortie du Royaume-Uni. Et aujourd'hui, Boris Johnson a officiellement signé cet accord de retrait. Alors que les opérateurs sont actuellement sur les rangs pour obtenir l'attribution de nouvelles fréquences, la 5G suscite quelques inquiétudes, des interrogations sur son potentiel impact sur notre santé et sur l'environnement. Deux ONG réclament même un moratoire et lancent une pétition et vont saisir le Conseil d'État. Les loyers seront à nouveau encadrés à Lille. Une excellente nouvelle pour Martine Aubry. Lille qui remplit les conditions prévues par la loi Elan pour justifier cet encadrement. La circulation différenciée renforcée à Lyon et dans deux villes limitrophes demain. En raison de la poursuite d'un pic de pollution aux particules fines, seuls pourront circuler les véhicules munis d'une vignette critère 0, 1 ou 2. À l'Open d'Australie de tennis, ce fut long et laborieux, mais ça passe finalement pour Federer qui a souffert beaucoup face à l'Australien Milman, qualification en 5-7 après un super tie-break. Côté français, Gaël Monfils, seul rescapé tricolore, affrontera la nuit prochaine le Letton Gulbis. En biathlon, un podium pour la Française Anaïs Bescon qui prend la 3e place de l'épreuve individuelle de Coupe du Monde. Et puis ensuite, en foot, vous savez qu'on suit ce soir, je mélange tous les mots ensemble, ça ne va pas aller. Là, en Ligue 1, la rencontre entre Nice et Rennes, match avancé de la 21e journée de Ligue 1. Et vous suivez ça pour nous, bien sûr, Frédéric Elion. Les Niçois qui dominent cette rencontre, en tout cas au score.
Effectivement, depuis la 47e minute et l'ouverture du score signé Kasper Dolberg, l'attaquant danois de cette formation azurène, Isabelle. Mais c'est un match vraiment plaisant à suivre avec pas mal d'occasions de part et d'autre, avec à l'instant une nouvelle contre-attaque express et claire des Niçois qui se solde par un corner qu'on va peut-être suivre avec Adam Ounas qui va le tirer de la droite vers la gauche. Quand on regarde les cages de Mendy, c'est parti au premier poteau, le dégagement du gardien rennais, la reprise de volée de Pierre Lesmelou. Finalement, ça va repartir pour le Rennais, vraiment une rencontre agréable, et les Bretons ont failli égaliser, c'était à la 64e avec une frappe de leur attaquant Mbaye Niang qui est venu s'écraser sur la barre transversale de Benitez, le portier niçois. Vraiment beaucoup de situations, mais pour l'instant la bonne opération est niçoise. Ici les Aiglons mènent 1-0, 72 minutes de jeu.
Et puisque c'est une rencontre agréable, eh bien on vous retrouvera pour le plaisir, Frédéric Elion, un petit peu avant 22h30 pour faire un nouveau point sur cette rencontre entre Nice et Rennes. Et puis c'est un événement exceptionnel pour les fans de basket et aussi une première. La NBA se délocalise le temps d'un soir à Paris. Les Milwaukee Bucks et les Charlotte Hornets qui s'affrontent depuis un peu plus d'une heure maintenant à Bercy. On vous retrouve sur place en direct. Axel May, sacrée ambiance, invisiblement les Français sont conquis.
Ah oui, oui, les 15 000 spectateurs sont plongés le temps d'une soirée dans un show à l'américaine. S'il n'y avait le speaker animateur qui s'exprime en français, on se croirait aux États-Unis. Il y a tous les ingrédients qui font le succès d'un match de NBA, les animations durant les temps morts, les mascottes des équipes et le frelon des Charlotte Hornets a beaucoup de succès. Et puis le match, bien sûr, avec donc d'un côté les Milwaukee Bucks, équipe leader de sa conférence, de sa poule dans le championnat nord-américain, et en face, les Charlotte Hornets du Frenchie Nicolas Batum. Son entraîneur a voulu faire plaisir au public. Batum est titulaire. On s'approche de la moitié du match et pour l'instant les Hornets qui sont une équipe de milieu de classement résistent à l'armada de Milwaukee 55-50 et le public admire les dunks et les paniers longue distance.
Merci beaucoup Axel May en direct du Bercy Accor Hotel Arena. Puis apparemment il y a des stars aussi dans les tribunes, Mbappé, Neymar, une pléiade de célébrités. Voilà pour cette rencontre de NBA, c'est un événement exceptionnel, une première pour les fans de basket. Et on jette un œil tout de suite sur la météo avec vous Anissa Haddadi. Et le temps Anissa restera couvert demain dans le sud.
Oui, effectivement Isabelle, avec encore demain sur le Languedoc-Roussillon et même jusque sur les Bouches-du-Rhône, un ciel couvert avec même quelques petites gouttes de pluie tout au long de la journée. Sur la Corse, le temps est sec avec des éclaircies à prévoir aussi l'après-midi. À l'ouest, sur la Bretagne et les Pays de la Loire et même jusqu'en Vendée, les nuages sont nombreux demain matin avec de la pluie demain après-midi. Partout ailleurs, c'est un temps sec pour ce début de week-end. Attention dans le nord-est hein, tout de même aux brumes et aux brouillards matinaux qui resteront assez tenaces dans l'après-midi. Les températures, moins 4 à Charleville-Mézières, moins 2 à Lille, moins 1 à Clermont-Ferrand, 2 degrés seulement pour Limoges, Saint-Étienne et Paris, 8 pour Marseille le matin et au meilleur de la journée, nous aurons 6 à Lille, 8 à Nancy et Paris, 10 pour La Rochelle, Brest et Besançon, 13 degrés à Nîmes et jusqu'à 15 degrés à Toulon.
La météo signée, Anissa Haddadi. Europe 1. Et dans un instant, vous saurez tout sur la bourse avec Didier Hamot de boursier.com, juste avant l'invité d'Emmanuel Duteil qui reçoit ce soir le président du Futuroscope. A tout de suite sur Europe 1. Europe 1. Et à 22h18 sur Europe 1, comme tous les soirs, on va s'intéresser maintenant à la bourse. Et c'est avec vous Didier Hamot, rédacteur en chef de boursier.com. Bonsoir Didier.
Bonsoir Isabelle.
Et Wall Street qui termine cette semaine en baisse, hein, à l'écoute forcément de la situation sanitaire internationale. L'évolution du coronavirus inquiète beaucoup. Hein.
Oui, alors pourtant hier, hein, le message rassurant de l'OMS avait un petit peu calmé les marchés. Mais là, ce soir, la propagation rapide de ce virus aux États-Unis et en Europe aussi inquiète les investisseurs. De nouveau, on a un Dow Jones en baisse de 0,5%. 58%, 28 990 points. C'est surtout l'indice des valeurs de technologie qui souffre. Le Nasdaq cède 0,93%, 9 315 points avec toutes ces valeurs exportatrices. Il pourrait y avoir un ralentissement évidemment des échanges au niveau mondial. Si la psychose gagne, on a Microsoft qui perd 1%, Apple moins 0,3%, IBM moins 1,6%, Amazon aussi perd 1,2%. Concrètement, McDo aussi a dû fermer quelques restaurants en Chine, donc ça perd 1% ce soir McDonald's à la clôture. Et puis Walt Disney cède 1,5%. Là, le groupe a fermé son parc à thème à Shanghai jusqu'à nouvel ordre. Un manque à gagner important en pleine période de festivités pour le nouvel an chinois. Il y a quand même un gagnant ce soir, c'est Intel. Le groupe fabricant de puces grimpe de 8%, 68,50 $ après des résultats meilleurs que prévus au quatrième trimestre. Le bénéfice net ressort à 6,9 milliards de dollars. Le pétrole continue de baisser. On est à 60 $ le baril de Brent ce soir. L'euro revient un petit cran en arrière. Indice 20 face au billet vert.
Répercussions importantes donc et inquiétudes autour du coronavirus. La Bourse de Paris, elle, Didier, est remontée hein, aujourd'hui au-dessus des 6000 points sur le CAC 40.
On est en décalage. Là, on a réagi surtout à l'OMS. Donc, ça, effectivement, ça a regagné un petit peu de terrain sur le CAC 40, plus 0,88%. 6024 points après 4 séances de baisse consécutives. Mais attention quand même à lundi, puisque Wall Street ce soir est en baisse. Le rebond est net sur quelques valeurs comme Carrefour, plus 4,5%, après un quatrième trimestre meilleur que prévu. De quoi confirmer une prévision de bénéfices opérationnels de plus de 2 milliards d'euros chez Carrefour. En hausse de 7,4%. Et puis Airbus continue de grimper, on est au plus haut, au sommet sur Airbus, qui profite toujours des déboires de Boeing, 139 €, plus 2,5%. L'analyste de chez Morgan Stanley qui suit la valeur vise désormais un cours de carrément 170 € sur Airbus, sur le constructeur européen, qui termine ce soir à 139 €, en hausse de 2,5%. Et puis sur sa lancée d'hier, STM gagne encore 2,5% avec Rexel.
Et puis exception du jour, c'est le titre Rémy Cointreau qui a lourdement chuté aujourd'hui.
Très fort. forte baisse, oui, moins 11% sous les 100 euros, 98,95 euros. Les revenus du groupe spiritueux ont plongé de 11,3% au troisième trimestre à 290 millions d'euros. Les ventes de cognac en particulier ont reculé de 7,6%. Les troubles à Hong Kong ont pesé lourd dans la balance avec un groupe très bien implanté dans la région. La situation en Chine pourrait aussi peser sur Rémy Cointreau qui accuse le coup. Moins 11% ce soir sous les 100 euros à la clôture. Sur les autres places financières, le DAX à Francfort a regagné 1,4%. Bruxelles plus 0,6%. Milan plus 1%. On rappelle le CAC 40 en hausse de 0,88%. 6024 points.
Merci beaucoup pour ce tour d'horizon très complet. Didier Hamot de boursier.com. Et tout de suite, c'est l'heure de l'invité Écho. Emmanuel Dutheil, vous recevez ce soir le président du Futuroscope.
Bonsoir Rodolphe Aubouin.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes à la tête du Futuroscope. Alors vous allez bientôt rouvrir. C'est le 8 février après une nouvelle année record. En 2019, ça a été une fois de plus assez exceptionnel d'un point de vue de la fréquentation. Et pourtant, en fin d'année, vous aussi, vous avez été impacté par les grèves. Vous avez une gare TGV au Futuroscope. Vous avez été vraiment impacté par le mouvement actuel sur les retraites ?
Oui et non, ça dépend des marchés. On est très impacté sur le marché tourisme d'affaires, avec un palais de congrès qui souffre un petit peu parce que les séminaires et les congrès s'annulent en fait. Donc ça a été le cas sur cette fin d'année. Sur notre clientèle habituelle, familiale, pas tant que ça en fait. On n'est pas trop touché. On est en province et donc les gens ont réservé et finalement viennent. Mais sur le tourisme d'affaires, c'est compliqué. Et puis à plus long terme, les gens évidemment ne réservent pas forcément.
Vous sentez que vous, du côté des réservations qui viennent par le train, c'est plus frileux que d'habitude à la même période ?
Ah oui, c'est moins 20, moins 30, mais bon. Ça n'est que 3% de notre population, donc finalement sur la fréquentation, ça joue pas tant que ça. Et puis tous les ans, il y a des aléas positifs, négatifs. En général, on parle souvent des éléments négatifs. Ça nous a pas empêché de faire une excellente année en 2019.
En 2020, on va encore battre le record ?
J'espère. On a une très grosse actualité en 2020. On a fait 50 000 visites de plus en 2019, alors que l'objectif était de stabiliser, parce qu'il faut faire les choses dans l'ordre. D'abord stabiliser l'activité telle qu'elle est aujourd'hui parce que l'entreprise est saine. Et puis ensuite repartir en conquête un peu plus forte en termes de fréquentation. Et 2020 est la première année d'un long programme d'investissement qui doit nous permettre de franchir des paliers significatifs en termes de fréquentation. Donc oui, j'espère qu'on progressera en 2020.
Alors parmi ces gros investissements, un roller coaster qui va s'appeler Objectif Mars. Vous aviez besoin, vous, de ces montagnes russes au Futuroscope ?
C'est une très bonne question, c'est interrogé depuis très longtemps. En fait, c'est les visiteurs qui dictent les choses. Ça fait 10 ans que les visiteurs nous disent un peu plus fortement qu'ils souhaiteraient voir un peu plus de sensations au Futuroscope. Ce n'est pas un choix simple, parce qu'il ne faut pas se banaliser, il ne faut pas tricher avec la marque du Futuroscope, qui est une marque un peu atypique, et qu'il faut évidemment cultiver. Donc on a fait le choix, malgré tout, d'intégrer cette nouvelle nature d'expérience avec un peu plus de sensations, mais sans trahir les codes de la marque du parc du Futuroscope. Donc on l'a fait différemment.
On va vraiment se sentir sur Mars ?
Oui, l'objectif, c'est de tester en fait vos capacités. C'est ça, en tout cas, le storytelling, tester vos capacités au travers d'un certain nombre de tests pour voir si vous êtes capable ou pas capable d'aller sur Mars, en fait. Et donc, il y a toute une série d'expériences en fait en indoor avant d'être lâché à l'extérieur. Façon Grand 8, effectivement, mais il se passe beaucoup de choses de manière très atypique. Et on a fait un assemblage d'un certain nombre de choses qui est unique au monde, je crois. Et puis, c'est le plus gros investissement que le Futuroscope n'ait jamais fait, 20 millions d'euros.
Quand vous dites que c'était une demande de nos clients, c'était une demande des plus jeunes, j'imagine, puisque c'est eux que vous essayez de faire revenir dès la toute petite enfance. C'était votre gros travail de ces dernières années avec pas mal d'installations pour les plus jeunes. Et puis, là, on est sur les pré-ados et les ados, j'imagine.
C'est exactement ça. C'est notre marque de fabrique. Et il faut qu'il y en ait pour tous les goûts. Et on n'a pas choisi, en fait, à l'intérieur des différents publics. Vous avez raison de dire que cette année, on a refait le monde des enfants, qui s'appelle Futuropolis. C'était plutôt pour les tout-petits. Et là, on est effectivement sur une clientèle ado, jeunes adultes. Mais les familles aussi souhaitent partager en fait, des choses avec leurs enfants. Et donc, aiment bien ce type de sensation-là, parce que c'est comme ça qu'on arrive à décrocher des sourires et des rires avec les enfants. Et c'est ça qu'on cherche.
Quand vous dites « on part », c'est le début d'un très grand plan d'investissement. Oui. Qu'est-ce qu'il va y avoir d'autre dans les prochaines années ?
On veut installer des très grosses attractions. Quand je dis des très grosses attractions, c'est à très haut niveau de qualité, plus forte que ce qu'on a aujourd'hui. Et à très haut débit horaire également, pour éviter d'avoir des temps d'attente qui sont trop forts, parce que c'est ça le sujet en fait sur les parcs d'attractions. C'est pour ça qu'on met 20 millions d'euros sur la table pour faire cette attraction-là, alors que le plus gros investissement qu'on ait jamais fait avant, c'était 13 millions, donc c'est 50% de plus. Et c'est pour ça que dans notre programme, on a prévu d'en planter 4 dans les 5 ans qui viennent à hauteur de 20 millions d'euros.
Et on peut avoir idée des thèmes qui vont être développés sur les prochaines installations ?
Ou alors on cherche toujours des thématiques qui sont évidemment liées au parc du Futuroscope. Il y a une thématique environnementale qui va bien. Quand on s'appelle Futuroscope, il y a futur dedans et ça colle bien avec l'environnement. Et puis on est attaché aussi à la première histoire du parc du Futuroscope. Tout ce qui est pionnier, découverte, aventure et tout ce qui fait avancer finalement l'homme nous intéresse. Donc on a pas mal d'idées dans les cartons.
En avoir de nouvelles, ça veut dire en avoir plus au final ou vous allez progressivement fermer certaines des installations qui avaient pu faire le succès du Futuroscope, mais qui sont peut-être un petit peu dépassées aujourd'hui.
On les garde. On garde ce canal historique et on construit des bâtiments pour progresser en termes de capacité et en termes de qualité, parce qu'encore une fois, l'objectif, c'est de progresser de manière significative en termes de fréquentation. Je redis qu'il faut faire les choses dans l'ordre, donc il faut d'abord avoir des capacités d'accueil plus importantes avant d'aller en conquête de fréquentation. Sinon, le bouche-à-oreille ne sera pas bon et on n'aura pas gagné sur le long terme.
Le but d'avoir de plus en plus de monde, de plus en plus d'attractions, c'est de pouvoir faire rester les gens le plus longtemps possible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes sur une grosse journée, je crois en moyenne au Futuroscope. Il faut que les gens restent vraiment tous 2 jours et donc dorment une nuit autour du parc. C'est ça l'idée ?
C'est exactement ça la stratégie. À 10 ans, elle est réfléchie à 10 ans, donc il y a un programme hôtelier également. C'est faire rester les gens, les faire venir de plus loin et les faire rester plus longtemps pour vraiment s'installer comme étant une destination de court séjour.
Vous aviez pas mal travaillé ces dernières années aussi sur les étrangers, qui sont une toute petite partie des gens qui viennent au Futuroscope. Là aussi, vous espérez en avoir un petit peu plus ?
Oui, on a progressé cette année de manière assez forte. Ce n'est pas une cible qu'on avait cochée ces dernières années, mais quand je dis faire venir de plus loin et faire rester plus longtemps, bah forcément Bruxelles, Barcelone, Londres sont des cibles intéressantes. Mais on n'a pas décidé de faire France ou international. En fait, c'est faire venir de plus loin et on regarde les zones isochrones. Bruxelles nous intéresse, l'Espagne nous intéresse, le nord de l'Italie également.
Mais l'idée, c'est de devenir une vraie destination de vacances. On sait que les Français partent de moins en moins loin, et peut-être de plus en plus souvent, mais sur de plus courts séjours. Et vous voulez totalement vous inscrire dans cette nouvelle démarche des vacances.
Exactement, c'est exactement ça. Devenir une destination de court séjour et faire en sorte que le contenu du parc du Futuroscope, qu'on va doper encore une fois avec des nouveaux produits, mettre le doute en fait dans l'esprit des visiteurs qui avaient peut-être prévu de visiter le parc du Futuroscope une journée et donc on espère les déclencher en 2 jours et peut-être des personnes demain qui avaient prévu de visiter le Futuroscope 2 jours, qui puissent rester 3 jours. En tout cas, c'est ça l'objectif et c'est ça l'ambition.
Vous ouvrez donc le 8 février, on est le 24 janvier, tout est déjà prêt ou il
absolument
reste encore pas mal de choses.
Le parc est en vrac, c'est un hivernage qui dure 5 semaines, c'est assez joli à voir. C'est le bazar jusqu'à minuit la veille et puis la magie s'opère et à 10h le lendemain, tout est nickel.
Eh bien, bon courage pour cette magie à nouveau. Rodolphe Boin, le patron du Futuroscope, était notre invité ce soir. On se retrouve lundi 22h20 sur Europe 1.
Merci à vous Emmanuel Dutheil. Effectivement, on vous dit à lundi. Et on va jeter un œil tout de suite sur les unes de vos quotidiens. Quels sont les sujets que nos confrères de la presse écrite ont choisi de mettre en avant? Alors, beaucoup de vos journaux n'ont pas eu le temps de mettre à la une l'annonce du jour. Ces 2 premiers cas français de coronavirus à Paris et à Bordeaux. La nouvelle est tombée un peu tard pour l'impression. Ouest France, néanmoins, l'évoque en une avec simplement une photo de la ministre de la Santé. Et puis le quotidien aujourd'hui en France également qui affiche le visage d'une Chinoise munie d'un masque sur le visage avec le regard inquiet et ce titre, 2 cas en France, faut-il avoir peur du coronavirus ? Le journal Libération lui a choisi de consacrer sa une au 75e anniversaire de la libération du camp nazi d'Auschwitz avec une photo d'une rescapée, Esther Senot, et ce titre, si tu t'en sors, surtout raconte. Des survivants de moins en moins nombreux, des jeunes générations moins sensibilisées, jusque sur les lieux de l'horreur. La mémoire de la Shoah cherche de nouvelles façons de se transmettre. Le Figaro publie quant à lui une photo du président de la République à bord de son avion qui le ramenait de Jérusalem avec ce titre. Antisémitisme, islam, guerre d'Algérie, démocratie, les confidences d'Emmanuel Macron, le chef de l'État livre ses positions sur les sujets brûlants de la mémoire, de l'identité et du communautarisme. Voilà donc pour ce tour d'horizon rapide des unes de vos journaux que vous retrouverez demain matin dans vos kiosques. Et comme promis, on va faire un nouveau détour rapide lui aussi par Nice qui reçoit Rennes en match avancé de Ligue 1. Frédéric Hélion, vous nous parliez d'un match agréable tout à l'heure. Les Rennais, je crois, sont revenus au score.
Oui, vous avez l'œil Isabelle, un but partout, 88 minutes à l'Allianz Riviera et c'est logique, il y a eu 5 minutes de très grosse pression bretonne sur le but de Walter Benitez et c'est Flavien T qui en a profité pour égaliser à la 81e, ça part d'un centre côté droit, mais Mbaignan qui coupe la trajectoire du ballon, son coup de tête est dévié du crâne par Dante, le défenseur niçois, et Flavien T un petit peu plus prompt et réactif que les autres joueurs au niveau du point de pénalty quasiment, qui du pied gauche vient tromper Walter Benitez et relancer donc complètement cette fin de rencontre. Il reste 2 minutes avant de rentrer dans le temps additionnel et un partout entre Nice et Rennes.
Merci beaucoup Frédéric Hélion en direct de l'Allianz Riviera et je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute d'Europe 1. Il est 22h30, l'heure de retrouver Sabine Marin pour votre libre antenne. Bonsoir Sabine.
Quelle ponctualité, bonsoir Isabelle.
À tout à l'heure, 23h ponctuellement également pour un nouveau point sur l'info.
Le rendez-vous est pris, à tout à l'heure.